Monogamie. Mais moi, j'aime bien ce concept. Je suis vieux jeu. Je suis une grande amoureuse, mais je suis une amoureuse sérielle amoureuse. Mais tu vois, un à la fois.
Bonjour à toutes et à tous, quel régal de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire autour d'un mot, d'un phénomène dans l'air du temps. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier puisque c'est un mot qui est dans l'air du temps depuis à peu près 2 gros millénaires. Un mot qui hante notre rédacteur en chef polygame depuis des années maintenant. Quand il rend visite à sa maîtresse luberonnaise et ses 3 enfants du soleil, Panis, Ugolin et Escartefig. Quand il papote sur Instagram avec Samantha Big Boobs. Ou encore quand il flâne le samedi avec Manon le long du canal Saint-Martin presque main dans la main, sous prétexte de faire le point sur la ligne éditoriale de la veille sanitaire. Ce mot qui turlupine Cyril depuis si longtemps, c'est le mot monogamie. L'homme et la femme sont-ils vraiment faits pour vivre en couple exclusif? Ne serait-ce pas plutôt une construction sociale vouée à exploser le jour où enfin on ouvrira courageusement les yeux sur notre vraie nature? Pour Manon, c'est clairement l'hypothèse numéro 2. Manon qui a déclaré que 2026 serait l'année du vice et qui a d'ailleurs tout de suite donné le ton dès le mois de janvier lors de notre déloque à Rouen, quitte à choquer les invités.
Juste une petite question, qui a voulu se taper Emmanuel et moi?
3 jours plus tard, c'était le fameux édito de Cyril sur le retour d'Agnan du gangbang à Paris qui plongeait les autres membres de l'équipe dans un état d'excitation et de gourmandise tout à fait incompatible avec le respect de la monogamie. Quentin allant même jusqu'à se lancer dans une imitation salace de Maïté.
L'entrecôte, je peux vous dire, le matin après le New Morning, il a pas mis entre les côtes.
Oh
vous...
Entre ça et son dérapage sur les 3 Suisses.
Écoute, c'est la redoute. Écarte les cuisses et les 3 cuisses. C'était les 3 Suisses, pardon.
On sent que cette question des limites de la monogamie travaille profondément certains membres de cette équipe. Alors comment la monogamie est-elle devenue le standard quasi universel? Faut-il s'en féliciter ou bien faut-il la remettre en cause? À quoi ça sert la monogamie? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Sabine Valence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Sabine, vous êtes chef cuisinière, très engagée sur les questions d'écologie, de justice sociale et de féminisme. Vous tenez un compte Instagram suivi par plus de 16 000 followers au nom plus qu'évocateur, Fidélité mes fesses. Vous y partagez vos réflexions et vos expériences sur l'amour, la sexualité, les relations humaines en général. Et vous avez sorti un livre le mois dernier, Aimer sans posséder, une critique féministe de la fidélité aux éditions textuelles. Un livre dans lequel vous interrogez donc sur le concept de fidélité. Est-ce que c'est forcément un pilier de nos vies conjugales? Est-ce que la monogamie est naturelle ou bien est-ce que c'est une construction sociale? Peut-on tromper et aimer? C'est toutes ces questions qu'on va se poser cet après-midi avec vous, même si je tiens avant tout à préciser à ma femme, qui peut-être nous écoute, que je vais les poser uniquement dans une perspective journalistique, hein, la monogamie n'étant pas négociable chez les Noël. Ce qui est peut-être moins le cas chez Manon et Quentin. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À vos côtés, Sabine, ça fait bien longtemps qu'elle n'a plus peur de dire haut et fort que la monogamie l'emmerde. Elle le glisse à chaque occasion, parfois même à l'antenne.
C'est hyper dur les tournantes en plus, bref.
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un album aujourd'hui,
tiens
le
donc.
Dernier de la chanteuse britannique Lily Allen qu'elle a écrit pour se venger de son ex-mari qui l'a trompée à tout va. Bravo à lui.
Et vous, êtes-vous certain que la monogamie est vraiment une bonne chose? Est-ce que parfois vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs? C'est la question qui est allée vous poser Quentin, même quand vous étiez avec votre conjoint dans la rue, car il s'en fout de créer le malaise dans votre couple. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'obtenir un bon micro-trottoir. Est-ce que ça a été le cas?
Je vais vous avouer un truc, j'ai pensé au fait d'arrêter les gens en couple et
non,
je ne l'ai pas osé. Comme quoi, malgré ce que vous dites en permanence, avec votre finesse habituelle, je n'ose pas tout. Et c'est peut-être à ça aussi qu'on me reconnaît. En revanche, j'ai eu des gens en couple, un par un. Pour qui la monogamie, c'est pas la pierre angulaire du projet, vous l'entendrez.
Ah oui, c'est vrai. Ah, les temps changent. Vers 16h30, et si pour fêter la fin de la monogamie, on se faisait un petit blind test chansotoride?
Ça m'excite les blind tests.
Oui, non, mais vous, tout vous excite. Donc voilà, on fera pas de blind test. Donc, par votre stupre, vous privez les auditeurs d'une séquence rieuse. Vous en assumerez les conséquences tout à l'heure au moment du Zoom Zoom Test. Un quiz normal, donc.
Oh.
Après 17h, restez avec nous. On zoomera sur ce peuple sans État qui est peut-être la clé du conflit au Moyen-Orient. Les Kurdes, ils sont 10 millions en Iran. Les Américains pensent qu'ils peuvent accélérer la chute du régime des Mollahs. Alors, qui sont les Kurdes? Réponse tout à l'heure avec un expert. Mais d'abord, Sabine Valence, avec vous, on va donc interroger celle qu'on interroge finalement pas si souvent que ça, la monogamie. Déjà, est-ce que inclus dans l'expression la monogamie, c'est forcément synonyme de fidélité?
Alors, non, pour moi, les deux termes ne sont pas synonymes. C'est-à-dire que pour moi, la monogamie, c'est plutôt une situation où en fait, vous ne relationnez amoureusement, romantiquement. et sexuellement avec une seule personne. Tandis que la fidélité, c'est un peu ce qui entraîne cette situation, puisqu'on se réclame mutuellement d'être fidèle à l'autre, donc bah, par conséquent, on est monogame. Après, moi, je distingue deux types de monogamie. La monogamie de fait, qui tombe comme ça, voilà, on relationne l'un avec l'autre. C'est un peu, je dois avouer, la monogamie que moi je vis le plus souvent, même si malgré tout ce que j'écris dans cet essai, la plupart du temps, je ne suis en relation qu'avec mon compagnon. Et mais ce n'est pas issu d'une obligation, d'une interdiction. Ça, c'est ce que j'appelle plutôt la monogamie de principe, où deux personnes, voilà, se mettent d'accord pour ne pas aller relationner ailleurs sous aucun prétexte, avec les diverses pressions que ça peut entraîner par derrière, voilà.
Mais ça fait quand même on aboutit quand même à la fidélité, du coup.
Oui. Disons que c'est des termes qui sont proches, mais je dirais pas non plus que ce sont des synonymes.
Longtemps, lui, il s'est ri de la monogamie. Quand il arrivait devant l'entrée du Why Not de Poto Combo avec à ses bras quatre petites pépées pas farouches, comme il disait à l'époque, jamais il n'aurait cru qu'un jour il abandonnerait les joies du célibat et les jeans poutre apparentes pour se consacrer à l'austère sacerdoce que constitue la vie monogame. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour
tout
à tous.
Tout est vrai dans cette description, Cyril.
Je vous laisse
vous
libre de vos propos, mon vieux.
Des vieux amis à vous m'ont écrit, ils m'ont rappelé ces soirées.
Des vieux amis.
Oui, ils m'ont rappelé à l'époque du Why Not de Ponto Combo. Bah, visiblement, ce club a vraiment existé en tout cas.
Christine et Jean-Pierre.
Oui, le Why Not a vraiment existé.
C'est des gens qui vous ont croisé là-bas, je ne sais pas.
Le Why Not, mais je suis même pas sûr d'avoir déjà été dans le Why Not.
Comment ça, Cyril?
Vous êtes fait recaler?
Ça m'est arrivé une fois.
Oh non, Cyril.
Mais je me souviens pas.
Un mythe s'écroule, Cyril. Ouais. Un mythe s'écroule.
Pour les lagarzouzes.
Cyril, racontez-nous un peu.
On s'est vu ailleurs.
La monogamie, d'où ça sort?
Imaginez une certaine vision du couple idéal, deux êtres qui se jurent fidélité pour la vie, qui n'ont Dieu que l'un pour l'autre, comme nous, Quentin. C'est le modèle dominant de notre société, la base de nos familles, de nos films, de nos chansons. Pourtant, si on regarde la nature, nous sommes des anomalies. Chez les mammifères, la monogamie concerne entre 3 et 5% des espèces qui vivent en couple. Normal, puisqu'une des origines à cette monogamie est économique. Cette notion nous vient de l'invention de l'agriculture et de la propriété privée. Tant qu'on était chasseur-cueilleur, on partageait tout. On était de joyeux communistes, sans le savoir. Tout était mis
même
en commun.
Vous.
Oui, même moi. J'étais pas chasseur-cueilleur. Tout était mis en commun, y compris les partenaires et les enfants.
Et puis, ma foi, un homme s'est dit qu'une clôture, ça serait bien pour garder ce qui lui appartient.
Et ça a tout changé. À partir du moment où quelqu'un s'est dit « ça, c'est à moi », il a commencé à réfléchir à qui il allait le léguer. Et là, plus question que ça, il y a n'importe quel enfant de la communauté, il fallait que ça soit son enfant. Et pour être sûr que ce soit son enfant, il fallait s'assurer que la femme n'ait pas d'autres hommes. Dit autrement, il fallait contrôler la sexualité des femmes et lui imposer la monogamie. Parce que oui, la monogamie, c'est d'abord aux femmes que ça s'adresse. Dans la Rome antique, la monogamie était déjà officielle, mais les hommes avaient des concubines et des esclaves. C'était une monogamie sociale, pas sexuelle. Et puis la religion a tout verrouillé et la fidélité est devenue une vertu morale sacrée pour les deux sexes, en tout cas en théorie. Alors d'où ça sort la monogamie? Eh bien, d'un peu d'économie, un peu de morale et un peu de sentiment d'appartenance. Et c'est le début de notre histoire.
Merci Cyril. Sabine Valence, la monogamie, on va évacuer la question d'entrée de jeu. C'est donc absolument pas biologique, c'est pas naturel, c'est une pure construction sociale.
Oui, à mon sens, oui, et vous l'avez très, très, très bien résumé. En fait, ça va de pair avec la construction du patrimoine et la nécessité de sa transmission. Et donc, le besoin de contrôler, comme vous avez dit, la sexualité, la fécondité et donc le corps des femmes. Ensuite, bon, vous l'avez dit, j'ai un peu l'impression de répéter ce que vous avez dit, mais les religions s'en sont effectivement mêlées au cours du Moyen-Âge, de la Renaissance. Et à notre, disons, à l'époque moderne, c'est Walt Disney, Hollywood qui s'en sont mêlés en saupoudrant tout ça.
Ce modèle-là.
En saupoudrant tout ça de paillettes romantiques et en faisant de cette notion quelque chose de plus beau et de plus noble, je pense, que ça ne l'est dans la réalité des faits.
Mais alors, comme toute notre société, nos sociétés même sont construites sur ce modèle de la monogamie, on voit les problèmes que ça pose, les problèmes sentimentaux que ça peut créer, psychologiques, mais en revanche, comment fonctionnerait une société basée sur la polygamie?
Bonne question. Ça me demande un grand exercice d'imagination. En fait, moi, c'est pas tant la polygamie ou même le polyamour qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, ce serait de voir ce que ça donnerait une société où les gens seraient libres affectivement, libres de leur corps, libres de vivre leur sexualité comme ils l'entendent, libres de vivre leurs amours comme ils l'entendent. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait donner, pour être honnête. Je pense que...
C'est un peu le cas de plus en plus, quand même.
Ouais, on est quand même encore très, très influencé par la monogamie. Je pense que le couple en tant que tel n'est pas forcément quelque chose qu'il faudrait totalement abolir. Je pense que la vie à deux offre pas mal de... répond à pas mal de besoins, peut-être, humains, un besoin de sécurité. Je pense quand même qu'il y a pas mal de choses qu'il faudrait déconstruire sur le couple monogame et plein d'autres adjectifs qu'on peut lui accoler.
Est-ce que la polygamie, c'est vraiment le contraire de la monogamie, pour vous ?
Le contraire, si on estime que le contraire de relationner avec une personne, c'est relationner avec plusieurs, du coup, oui, ce sera un peu le contraire. Après, la polygamie en tant que telle, c'est un homme qui relationne avec plusieurs femmes, techniquement parlant. Une femme qui relationne avec plusieurs hommes, c'est la polyandrie. Oui. Et en plus, je crois que dans la notion de gamme, il y a la notion de mariage. Donc après, on peut parler de polyamour pour, si on n'inclut pas des relations plus institutionnalisées. Voilà.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
La monogamie en question, voire même en procès cet après-midi dans Zoom Zoom Zen. On est toujours avec Sabine Valence, auteure de Aimer sans posséder, une critique féministe de la fidélité parue chez Textuel. J'ai envie de vous interroger directement sur le titre du livre. Comment on fait pour aimer sans posséder? Parce que je crois que c'est un idéal. On en rêve un peu tous aujourd'hui quand on essaye de se déconstruire un minimum. Mais comment on l'atteint? C'est peut-être... Il y a quand même des choses, j'ai l'impression, qui nous retiennent toujours, qui font qu'on dit cette personne, elle est un peu à moi finalement parce qu'on l'aime.
Ben c'est aussi ma grande question, et c'est vrai que c'est difficile de démêler ce qui relèverait dans l'amour, qui effectivement nous rend très possessif, de ce qui relèverait de quelque chose de presque naturel, entre gros guillemets, ou en tout cas de territorial, ou de trop, enfin de tellement, qui relèverait presque, je sais pas, du cerveau reptilien, ou de réflexes presque instinctifs, et ce qui relèverait du culturel. Je pense qu'il y a quand même une grosse part de culturel. Je pense qu'on est, vraiment encouragé à se comporter de cette façon-là dans l'amour, par ce qu'on a dit, quoi, des siècles de construction, et puis une culture amoureuse qui voit vraiment la possession comme une composante inhérente de l'amour et du couple. Donc après, comment on y arrive? Malheureusement, je pense que c'est difficile d'aller contre sa culture. Beaucoup de gens me posent la question, oui, comment on arrive, etc. Et pendant longtemps, je leur répondais, faut peut-être voir ça avec un psy, faire une thérapie. Aujourd'hui, je leur réponds, écoutez, je sais même pas si c'est possible, donc vous pouvez essayer, mais tout seul, on n'y arrivera pas. Soit il y a quelque chose, il y a un changement culturel, ouais. qui nous apprend que aimer, on peut aimer profondément et se comporter différemment, ou alors mais chacun tout seul dans son coin, je suis pas sûre qu'on le puisse.
Mais est-ce que l'être humain est fait pour être monogame?
Alors, si on regarde un peu les chiffres de l'infidélité, il me semble que...
Oui, et des divorces, oui.
Il est peut-être fait pour être monogame, infidèle.
Oui, alors ça,
c'est peut-être le compromis que...
Peut-être. Et dans ce cas-là, c'est ce que je propose, en fait, de changer la définition de la fidélité, finalement.
Je lisais un article du Monde intitulé « L'humain est monogame un peu plus que le suricate, un peu moins que le castor ». Ça intrigue les scientifiques, quand même, cette histoire de monogamie. Il y a une part animale? On se compare aux animaux là-dessus?
Oui, c'est souvent un argument qui est, qu'on nous sort. Oui, d'ailleurs, pendant longtemps, ce qui est rigolo, c'est qu'on disait oui, c'est naturel d'être monogame, mais en fait, quand on regarde dans le monde naturel, s'il en existe un, en tout cas dans le monde animal, effectivement, la monogamie existe assez peu. Après, moi, ce que je dis aussi, c'est que pour moi, la nature humaine existe-t-elle? Est-ce que le naturel, c'est pas justement ce à quoi l'humain n'a pas touché, finalement? Donc, à la limite, la part qui relève du naturel, la part qui relève du construit, c'est des questions qui sont quand même obscures. Ça reste intéressant de se pencher sur la biologie animale pour se rendre compte que la monogamie n'est pas du tout, comme vous disiez, c'est une sorte d'anomalie en fait. C'est une construction.
Vous le disiez, donc la monogamie, elle est souvent glorifiée même dans les Walt Disney. Enfin, c'est vraiment le modèle qu'on a sous les yeux quand on grandit dans nos sociétés. Vous dites que l'exclusivité sexuelle, nous privant de facto de la libre disposition de nos corps, nous soumet à une forme d'oppression intime inscrite dans une société patriarcale, capitaliste et préjudiciable surtout pour les femmes. C'est les femmes les grandes perdantes de cette monogamie érigée comme idéale.
Oui, je le pense. En fait, voilà, moi, pour moi, c'est pas tant la monogamie qui me pose problème, c'est cette idée que deux corps s'appartiennent mutuellement. Or, cette idée que deux corps s'appartiennent mutuellement, si on prend dans un couple hétérosexuel, par exemple, ça n'a quand même pas la même portée pour les femmes et pour les hommes. Voilà, je sais même pas si je dois développer, tellement ça me paraît évident, hein, oui, qu'en fait...
Quentin, vous vouliez...
Mais non, du coup, non, la monogamie, pour vous, c'est plus un vecteur de stabilité ou plus un vecteur de frustration? Parce que là, quand on vous écoute, bon, ça a l'air d'être plus un vecteur de frustration, vu qu'on parle des personnes qui sont infidèles, etc.
Ouais, bah, je pense qu'on est collectivement extrêmement frustrés sur le plan... c'est pas tant sur le plan sexuel, c'est même sur le plan affectif. Je pense qu'à partir du moment où on estime qu'il y a une place pour un amour et que si je ressens des sentiments, du désir pour quelqu'un d'autre, si j'ai une relation intime avec quelqu'un d'autre, l'autre amour doit s'arrêter. Enfin, je pense que ce système nous impose une grande violence sur nos systèmes affectifs.
Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se dise qu'on peut aimer aussi plusieurs personnes à la fois.
Ben, je pense qu'il faudrait petit à petit essayer de s'habituer à cette idée, ou du moins, comme vous disiez, peut-être que j'essaye de trouver des nuances entre le polyamour total d'un côté et la monogamie totale d'un côté. Je pense que voilà, ce qui fonctionnerait à l'heure actuelle, ce serait peut-être de reconnaître que beaucoup de gens aspirent quand même à être en couple, à vivre des histoires d'amour. Et en même temps, il y a souvent des à-côté, et ça arrive, et que peut-être c'est pas la peine d'en faire forcément un drame, surtout de légitimer des violences sur ce principe, et de briser des couples et des familles à cause de ça.
Mais logistiquement, c'est compliqué aussi cette histoire, c'est-à-dire que si on s'autorise à tomber amoureux de plusieurs personnes en même temps, on va pas vivre avec toutes les personnes à la fois, donc on va avoir un amour un peu tronqué avec la personne avec qui on va pas vivre et revenir dans une routine à la maison.
On sent que la logistique compte beaucoup.
Non, mais c'est compliqué quand même.
Faut vivre seul.
Ou vivre seul.
Ouais, il y a tout à inventer. Après, on n'est pas obligé de cohabiter parce qu'on est amoureux. On peut très bien, on peut très bien vivre seul. On peut très bien vivre à plusieurs. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de choses à inventer. C'est justement ça qui est génial, c'est que le champ est libre, quoi.
Ne soyez pas si obtus, Quentin. Vous voyez, monsieur, vous avez déjà trompé votre femme? Oh, au moins un peu envie, non, mon coquin? Et vous, madame, vous l'avez déjà fait cocu, Bernard? Voilà les questions que Quentin est allé vous poser dans la rue pour ce micro-trottoir spécial monogamie.
Allez, ma première rencontre, c'est ce monsieur. La bonne cinquantaine, le teint hâlé, la petite barbe blanche de 3 jours et la casquette américaine brodée, vissée sur la tête. Il est en train d'attacher son vélo à un poteau. Visiblement pressé, il me glisse qu'il a un rendez-vous, mais il accepte quand même de s'arrêter quelques secondes pour discuter.
Monogamie. Moi, j'y crois pas. Enfin, je pense pas qu'on puisse être fait que pour une seule personne.
Vous avez été marié, vous?
Non, jamais. Ah non, moi, c'est pas pour moi, quoi. Je pense pas qu'on puisse être... Je trouve ça triste, quelque part, d'être avec une seule personne. Enfin, bon.
Est-ce que vous avez essayé?
D'être monogame? Ben, un certain temps, oui. Mais au bout d'un moment, voilà, quoi. Ben, je résiste à tout, sauf à la tentation, quoi.
Ah, voilà. La tentation. La fameuse tentation, celle d'Oscar Wilde, à laquelle il faudrait céder pour mieux lui résister. Je continue avec lui sur cette histoire de monogamie.
Peut-être que les femmes sont beaucoup plus fidèles que les hommes. Puis après, personne n'appartient à qui que ce soit, quoi, en fait. Marié ou pas marié.
Non, mais on se promet fidélité, c'est ça le mariage, non?
C'est pour ça que je suis pas marié. J'ai pas été à l'église en disant voilà, fidélité, non.
Un peu plus loin, je tombe sur ces deux petites dames. Manteau bien fermé, sac à main au bras, maquillage un peu appuyé. Le genre de duo qui semble tout faire ensemble. L'une accepte volontiers de me répondre, sa copine, elle, se met légèrement en retrait. Elle me glisse avec un sourire qu'elle est devenue un peu sourde avec l'âge. Alors elle écoute comme elle peut, suit la conversation du regard et me dit que si jamais elle comprend quelque chose et qu'elle a envie de répondre, elle se permettra d'ajouter son mot.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom à vous?
Béa.
Béa, vous avez quel âge?
Je vais avoir 69 ans. Monogamie. Oui, c'est moi ça, monogamie. Mon âge.
Pourquoi?
Parce que j'ai qu'un seul mec.
La question que je pose dans la rue aux gens, c'est est-ce qu'on est fait pour être qu'avec une personne? Est-ce que ce modèle-là fonctionne?
Là, je ne comprends plus ce que vous dites, vous voyez.
Je disais, est-ce qu'on est fait pour rester avec une seule personne, Odette?
Vous voulez dire toute sa vie rester avec la même personne, si on a la chance d'aimer cette personne? Il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai d'abord épousé un homme beaucoup plus âgé que moi, avec qui j'ai été très heureuse. Il est mort et j'ai eu un compagnon avec qui j'ai été très heureuse, et il est mort, et voilà.
Et vous avez toujours été fidèle?
Oui, mais ça n'est pas ça ne m'a pas été pesant.
Je reviens à Béatrice, à qui je demande comment ça se passe la vie à deux.
Moi, je suis pas très très portée sur le sexe. Donc, pour moi, la monogamie, ça me satisfait. Maintenant, je pense qu'effectivement, si on a un besoin sexuel ou on est attiré sexuellement par d'autres personnes, on va avoir tendance à papillonner. Moi, c'est pas mon truc.
Nous parlons du couple alors, de la jalousie parfois difficile à gérer.
Savoir que sa moitié va voir quelqu'un d'autre, c'est difficile.
Oui, j'ai envie de vous poser la question. Si vous apprenez que votre moitié, vous avez vu quelqu'un d'autre.
Moi, je suis pas jalouse. Et puis si je lui donne pas satisfaction sexuellement et s'il a besoin d'aller ailleurs, et ben voilà, moi ça me dérange pas.
Mais est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé?
Avec lui?
Oui.
Oui et non.
C'est tacite.
Moi je lui dis, va voir ailleurs si t'as envie d'aller voir ailleurs, oui. Non, oui, c'est tacite, oui, y a pas, c'est pas un sujet qu'on aborde réellement, quoi.
Tiens, j'arrête Axel maintenant, la trentaine, c'est quoi son truc à lui dans la vie?
Mon truc à moi dans la vie, c'est de prendre du fun.
Il se marre en découvrant... Oui, j'ai pris son numéro, Manon.
Si jamais ça vous intéresse, si vous aimez le fun.
Si vous aimez le fun. Il se marre en découvrant notre mot du jour, la monogamie.
Très bonne question. La monogamie, on parle de quoi?
On parle d'amour ou de sexe?
On parle des deux, en vrai. Hein. C'est pas que... Parce que sinon, ça reviendra à ce qu'on se parle de... Le polyamour, etc. Patati, patata.
Ça, vous y croyez pas?
C'est pas que j'y crois pas, mais je trouve que c'est juste un bullshit pour aller voir ailleurs.
Peut-être, au moment où je salue Axel, je sens que quelqu'un s'approche pour me parler de mon micro. Mais qui peut bien s'intéresser à mon micro?
Non, mais c'est bien ça, parce que moi j'ai les gros zooms là, tu sais, avec le truc micro et tout. Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Mylène.
Mylène, on connaît votre voix?
Un petit peu, vous m'entendez tous les mardis matins dans Mylène t'emmène sur Radio Nova.
Ah mais oui, Mylène, c'est celle qui une fois par semaine promène son micro en reportage en dehors, dans des lieux insolites. En fait, c'est la Quentin de Nova, c'est gauche quoi. Dernier avis sur...
Monogamie. Mais moi j'aime bien ce concept, je suis vieux jeu. Je suis une grande amoureuse, mais je suis une amoureuse... Serial amoureuse, mais tu vois, un à la fois.
Et en même temps, on parle quand même beaucoup d'ouvrir le couple aujourd'hui.
Mais moi, avec moi, t'ouvres rien du tout, mon petit chou. Je suis la reine des abeilles et tu vas pas voir ailleurs. Et de toute façon, je prends trop de place. C'est-à-dire que si vraiment t'arrives à aller voir ailleurs en étant avec moi, c'est que t'es vraiment très fort. Ouais. Non, je prends trop de place, c'est pas possible.
Elle reconnaît quand même la quarantaine passée qu'elle le voit autour d'elle.
Enfin, la société, elle te propose aujourd'hui d'autres modèles. Bah, c'est bien, c'est un peu à la carte, mais...
Tu penses quoi du polyamour, par exemple?
Alors, moi, je vais te dire un truc, j'en pense que du bien pour ceux qui le pratiquent. La vérité, j'ai beaucoup de potes psy qui me disent « c'est une catastrophe, on les voit en cabinet, c'est le bordel déjà, à deux, c'est l'enfer, mais alors quand tu ouvres, là, après, c'est vraiment l'horreur ».
Alors, ouvrir, repenser le couple, pourquoi pas, c'est peut-être un truc de l'époque et puis un défi pour demain. Mais dans la rue, une chose revient souvent, quand déjà à deux c'est compliqué, on voit mal comment ça deviendrait plus simple en rajoutant du monde.
Merci Quentin. Alors Sabine Valence, sans être vieux jeu, effectivement, je rebondis sur ce que nous disait Mylène de Radio Nova. Déjà qu'à deux, c'est parfois compliqué. Alors à plus, c'est vraiment le bordel, quoi. Enfin, c'est-à-dire que sur le papier, sur le papier, ça fait envie. Enfin, je veux dire, on se dit oui, il faut que chacun soit absolument libre, que chacun puisse faire ce qu'il veut et tout ça. Mais peut-être que cette monogamie, elle sert à canaliser aussi le trop-plein d'émotions qu'on a, de sentiments, d'appétit sexuel, et que quelque part, c'est comme ça que socialement ça tient. C'était ma minute du vieux con. Je laisse rebondir là-dessus.
Oui, ça peut être compliqué en pratique. Je pense que on manque surtout de repères et que en fait nos repères amoureux sont tellement influencés par la monogamie et l'exclusivité et la possessivité, nos repères comportementaux comme émotionnels, que c'est difficile de naviguer dans des amours pluriels. Moi, quelque chose que j'aime bien dire quand on me parle de ça, c'est de voir comment fonctionnent nos amitiés. Et je dis pas que c'est le même sentiment, mais je dis qu'on peut quand même parfois se demander comment je me comporterais si ces gens étaient des amis, si je n'avais pas des sentiments amoureux pour eux, si je n'avais pas des relations sexuelles avec eux, et de peut-être voir.
C'est que c'est la différence des deux relations entre l'amitié et la personne avec qui on est ou on est amoureux.
Oui, mais je pense que les relations amicales n'impliquent pas autant de possessivité, autant de jalousie, et donc donne lieu à des relations plus saines, même s'il peut bien sûr y avoir des amitiés toxiques. Donc voilà, donc c'est sûr que bien sûr il y a une différence de sentiments, mais je pense pas que cette différence justifie de se comporter de façon tyrannique et toxique, comme on peut le voir quand même dans pas mal de couples, pour ne pas aller jusqu'au terme violence, quoi.
Je reviens sur ma première rencontre, qui est cet homme de 50 ans qui lui n'y croit pas du tout. Il me dit pourtant j'ai essayé au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voit la monogamie comme une utopie
Est-ce que c'est très court-termiste, en fait ? Au bout d'un moment, on arrive vite aux limites.
En fait, je pense que c'est totalement... Il y a quelque chose de presque naturel, on va dire, entre guillemets, où je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très fort au début qui peut avoir du sens biologiquement. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur ça.
On tombe amoureux, chimiquement,
voilà,
on le sait.
Oui, oui, il y a quelque chose de chimique, effectivement, d'hormonal, voilà, de très fort, qui a du... Enfin, il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, qui disent que ça a du sens pour la reproduction de l'espèce, etc. Ouais. Voilà. Mais en général, cette période qu'on peut appeler la lune de miel, qu'on peut appeler voilà, la passion, etc., et dans laquelle on a très envie d'exclusivité, on a très envie de fusion, voilà. En général, cette période s'estompe avec le temps. Enfin, voilà, elle dure 6 mois, 1 an, 3 ans, voilà. Et suite à ça, je pense que un autre type d'amour se développe qui peut laisser de la place,
enfin, à d'autres amours plus passionnés.
Voilà. Voilà, exactement. Et c'est en ça que ça peut être compliqué aussi, je pense, la gestion des amours pluriels. C'est comment, quand on est dans une relation où l'amour n'est plus passionnel, mais il peut quand même être très profond, très installé, où il y a beaucoup de choses qui dépendent de cet amour, des choses matérielles, des familles, etc. Et qu'un autre amour surgit qui est très passionnel, effectivement, je pense que là, ça crée vraiment des tensions. Et ça, c'est pas simple parce que c'est vraiment, pour le coup, on pourra dire oui, on peut avoir des repères dans l'amitié. Je pense que ce sentiment est tellement puissant que c'est difficile effectivement de naviguer dedans.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
La monogamie est-elle le seul horizon valable ?
Je suis vraiment en train de m'étouffer.
Pardon Manon, pour vous la réponse est évidemment non, non. Mais en 2026, beaucoup de gens estiment encore, à tort ou à raison, qu'être en couple et être fidèle est l'idéal qu'on doit tous viser. Bon, je vous en prie Manon, cessez de vous moquer de ceux qui ne vivent pas comme vous. Ils sont nombreux, comme vous allez le découvrir dans le Zoom Zoom Test.
C'est un pas quiz, mon rire.
C'est tout à fait votre rire Manon, juste bouclé. Oui. Un quiz dédié cet après-midi aux chiffres fous de la monogamie. On commence peut-être par le plus fou de tous ces chiffres. Vous le savez, vous l'avez constaté, aujourd'hui tout va trop vite, comme le déplorait hier encore Madame Lui, après 4 minutes et 17 secondes de bonheur conjugal. Surtout rapporté aux 43 minutes que Quentin venait de passer à la Serinée avec tous les changements intervenus sur la nouvelle monoplace Ferrari SF26. Oui, tout va très vite et l'amour n'échappe pas à cette folle cadence. D'après vous, quel record détient Linda Lou Taylor ? Elle a eu plus de 1600 amants, soit 177 de plus que Manon Marielle. Elle a empoisonné 8 de ses 12 maris, où elle s'est mariée 23 fois.
C'est
B.
23.
Mais elle a empoisonné, vous voyez de côté Fabrice Drouel, Fleur Bleue. C'est une bonne réponse de Manu Marielli. Oui, réponse C. Voilà quelqu'un pour qui l'expression « jusqu'à ce que la mort vous sépare » n'a évidemment pas beaucoup compté. Linda Lou s'est mariée pour la première fois en 1957, à l'âge de 16 ans, avec un certain Georges, dont elle s'est visiblement lassée aussi vite que Manon de son air fryer. Et depuis, elle est devenue accro aux cérémonies de mariage, raconte-t-elle au quotidien britannique The Telegraph. Et donc, elle s'est mariée 23 fois. Son mariage le plus court n'a duré que 36 heures, soit donc encore moins que celui entre Cyril et sa première femme, sur lequel il est presque aussi mystérieux que son rôle exact dans la protection rapprochée de Bill Clinton au début des années 2000. Mais Manon Quentin, attention, top. Beaucoup d'informations.
Ça balance là. Ouais,
quand
ouais,
vous entendez,
vous êtes fou.
Quand vous entendez cette chanson, vous le savez, il n'y a que deux possibilités. Soit on est sur ma terrasse dans le sud et j'ai mis ma playlist Pool Sex Party.
Oh mon Dieu, mon Dieu.
Et tout le monde a des frissons de gêne sur la table.
On n'a pas envie de venir là.
Soit vous n'êtes pas invité. Soit la question va porter sur les relations hors mariage, des relations qui, dans notre société gangrénée par le stupre, se multiplient. Comme le prouve la statistique suivante de l'INSEE. D'après vous, en 40 ans, la population totale en France a augmenté de 40%. Mais de combien a augmenté la proportion de célibataires sur la même période ? De 40% aussi ? De 100% ? Ou de 200% ?
B, 100% ?
C'est...
Vous ne croyez plus en rien, Quentin.
Fallait se caler, hein, quasi à l'époque, ouais.
C'est une bonne réponse de Quentin.
Ah ouais ?
Eh oui ! J'ai mal à ma France, vous n'avez pas honte, t'as de dégénérer, s'exclame Cyril Lacaire en régie. Et pour le coup, je me range à l'avis de mon rédacteur en chef, dont les analyses sont toujours frappées au coin du bon sens. Tout ça, c'est la faute des internets et des applis de rencontre. Mais c'est cependant omettre une vérité historique. Les Français n'ont pas attendu l'arrivée des smartphones et des applis de rencontre pour s'encanailler. Nous sommes en 1825 et Monsieur de Foix ouvre la première agence matrimoniale. Pas de question particulière liée à cette info, c'était juste un shot gratuit de gai savoir. Car j'ai envie de remonter encore plus loin. Au 18e siècle, à la rencontre de l'ancêtre de l'agence matrimoniale, le journal d'annonces matrimoniales. Un bi-hebdomadaire fondé à Paris en 1791. D'après vous, quel était tout simplement son titre ? Le journal des belles galantes ? Le courrier de l'hymen ?
Oh non.
Ou la gazette du clitoris ?
Oh, B, 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 B
Vous avez réfléchi, vous avez
procédé révolutionnaire, par, non, je sais pas.
Élimination, Quentin, évidemment, c'est la réponse B, bonne réponse de Manon Mariani. Le célèbre courrier de l'hymen, véritable bible pour ceux qui cherchaient l'amour ou autre chose. On pouvait y lire des annonces engageantes qui avaient cependant le mérite de la franchise, pas comme le profil Tinder de Quentin où il avait mis une photo de Louis Garrel. Deux exemples d'annonces. C'est vrai, vous avez eu à une époque.
J'ai eu.
Vous avez matché avec personne.
Voilà, c'est ça. Non, j'ai eu aucun date. Si, j'ai matché avec des gens. Vous êtes une méchanceté.
Mais c'est ce que vous m'aviez dit.
Non, j'ai juste dit que je n'ai jamais eu de date.
Okay, okay.
La tristesse de tous ces souvenirs. Bref.
Oh,
deux exemples d'annonces datant de 1806 et 1810. Vieille, pauvre, laide, qui m'épousera ne sera tout de même pas déçue. Ou encore, jeune femme de 42 ans rêve du bonheur avec un agent SNCF 44-50 ans.
C'est vrai, vraiment.
À l'époque, on avait encore le rêve modeste, Manon.
Ah ouais.
Enfin, attention. Vous qui êtes toujours à l'affût des nouvelles tendances, quoique pour Quentin, la sortie d'un best-of de Michel Delpech est une nouveauté, serez-vous capable de répondre à cette ultime question, symbole tragique de l'effritement du concept de monogamie ? Que désigne l'anarel ? L'anarchie sexuelle ? L'anarchie relationnelle ? Ou une pratique qui, bien réalisée, peut déboucher sur un jeu
tel ?
C'est qui m'a dit
on est vraiment des enfants.
C'est vous qui avez dit B, c'est une bonne réponse. L'anarel est un courant de pensée et une philosophie de vie qui prône l'absence de hiérarchie dans les relations et la non-monogamie. Évidemment, il s'agit d'une forme extrême d'amour libre qui ne répond à aucune norme et qui concerne tout type de relation, qu'elle soit amoureuse, sexuelle ou amicale. Fini les crises dans la relation, personne ne doit rien à personne. Pas comme ici où vous me devez tout. Ne l'oubliez jamais. Victoire de Quentin.
Allez, c'était sûr.
Ainsi en ai-je décidé, puisque nous étions sur une situation d'égalité.
Ah ok, voilà, c'est bien ce que je pensais.
Égalité, égalité.
Pourquoi,
merci à tous. Je te la laisse.
Pourquoi sommes-nous monogames ? C'est la question qu'on pose cet après-midi avec Sabine Valence, autrice de « Aimer sans posséder », une critique féministe de la fidélité. C'est sorti aux éditions textuelles. Sabine, est-ce que cette construction de la société, puisqu'on a vu que c'était une construction sociale, du couple monogame, est-ce que c'est aussi une conception morale vis-à-vis du sexe ? Une conception, pour tout dire, judéo-chrétienne, tout simplement.
Oui, je pense. Je disais tout à l'heure que les religions s'en sont mêlées et je pense que leur poids pèse encore aujourd'hui. Oui. Je pense que au-delà de la sexualité, il y a quelque chose d'un peu judéo-chrétien dans notre façon d'aimer et de d'un peu, enfin, ce qui peut y avoir un peu de masochiste dans certains courants religieux, c'est-à-dire que. On estime que parce que qu'en fait l'amour vrai c'est forcément l'amour exclusif, qu'il n'y a que cet amour-là qui est pur. Pourquoi ? Parce que justement il demande un sacrifice, une amputation d'une partie de soi. Voilà, pour aimer vraiment, il faut aimer durement, c'est ce que je dis dans le livre. Et
c'est bien dit.
Et voilà, et c'est parce que voilà on met ça en gage, on met son cœur, ce cœur, son corps, son cœur en gage, que ça garantit que cet amour-là est grand, est pur, est noble, est beau.
Ah oui, le lien avec la religion, voilà. il est très direct là.
Ouais, je pense. Ouais.
Vous reprenez une étude qui montre qu'on serait infidèle si on était sûr de pas se faire prendre. Qu'est-ce que ça dit de nous finalement?
Qu'on est hypocrite?
Ouais.
Ouais, complètement. Bah oui, je pense que tout ça repose beaucoup sur de l'hypocrisie. On parle beaucoup du mensonge, du fait qu'il faut pas mentir, etc. Bon, moi je suis pas pour mentir, hein, évidemment. Je suis pour l'honnêteté, mais à un moment, si on veut que les gens, enfin déjà c'est pas nouveau que les gens mentent sur leur sexualité pour se protéger ou protéger les autres.
C'est le manque de communication aussi.
Oui. Mais en fait, pour communiquer sur ces questions-là, il va falloir que collectivement et individuellement, on accepte que certaines vérités ne nous font pas plaisir. Donc oui, je pense qu'effectivement, ce serait... Bon, c'est difficile, hein, mais ce serait bien de sortir de cette hypocrisie.
Mais je pensais qu'en France, on avait pourtant un regard moins dur vis-à-vis des personnes volages. C'est d'ailleurs un peu l'image qu'on a de nous à l'étranger, quand on parle des Français plus libres.
Et c'est pas le cas, finalement
J'ai pas l'impression. Moi, j'avais été vachement étonnée quand j'avais vu la série Emily in Paris, où on avait l'impression que tous les gens avec qui elle travaillait avait plein d'amants, etc. Bon, moi c'est pas du tout, j'ai pas du tout l'impression qu'en France on soit, enfin je sais pas, c'est une espèce de cliché. Après non, j'ai pas l'impression. Après moi je suis peut-être un peu biaisée parce que je passe beaucoup de temps sur Instagram avec mon compte Fidélité Mes Fesses, mais non, j'ai l'impression que ça se crispe de plus en plus, notamment chez la jeune génération, où on considère qu'un couple de plus en plus c'est un lieu où chacun décide ensemble de ce qu'il est autorisé et de ce qui est interdit, et que voilà, il ne faut pas sortir, et que ça, d'ailleurs ça dépasse le champ de la sexualité, c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à t'interdire de liker des photos sur Instagram, ou t'interdire d'avoir avoir des amis trop proches du sexe opposé. Et la définition de la fidélité s'élargit de plus en plus, comme si elle n'était pas déjà assez compliquée à suivre à la base.
Votre livre, Aimer sans posséder, il est aussi très personnel, on le sent bien. Vous parlez d'ailleurs de votre partenaire officiel, ça veut dire qu'il y a des partenaires officieux. Comment ça s'organise? Comment vous expérimentez la chose d'aimer sans posséder?
C'est pas simple. Non, en fait, c'est pas tant que... comme je disais, la plupart du temps, moi, je vis en monogamie avec mon compagnon, qui est l'homme que j'aime depuis 20 ans. Et quand il arrive qu'il y ait d'autres rencontres... De toute façon, c'est pas simple de vivre librement dans un monde où peu de gens vivent cette liberté. Oui, donc en fait, c'est comme si vous sortez de prison, vous êtes hors de votre cellule, c'est bien, mais tout le monde y est encore. Donc en fait, vous êtes content d'être libre, mais vous êtes seul. Donc comment ça s'organise? Bon, un petit peu au petit bonheur la chance. Enfin, je pense que chacun avance comme il peut là-dedans.
Mais vous en parlez? Vous avez posé des règles? Vous avez
un contrat?
Alors si non, il y a pas de contrat. On peut en parler, mais c'est vraiment... En fait, on essaye de respecter la vie privée de chacun. Donc, s'il arrive des choses avec mon compagnon, s'il lui arrive des choses ou s'il m'arrive des choses, c'est à chacun de décider si on a l'impression que ça regarde l'autre ou pas, ou si ça relève de ce qu'on a envie de protéger et de notre jardin secret.
Mais il n'y a pas de devoir d'informer l'autre.
Absolument pas. Et je pense que c'est toutes ces règles qu'on essaye de mettre autour des relations un peu plus libres, un peu plus ouvertes, s'inspirent en fait du couple non libre et contribuent aussi à certains échecs. En fait, on reste très rigide sur ces choses-là. Alors que je pense qu'il faudrait être un peu plus, lâcher un peu plus du lest et être un peu moins crispé sur les règles et les contrats. Voilà. Parce qu'en fait, les relations amoureuses et autres ne répondent pas à des règles et des contrats.
Soyons plus souples. Aimer sans posséder, Sabine Valence, c'est chez Textuel. Vous écoutez Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce joint de Manon Mariani.
Un album aujourd'hui, le dernier de la chanteuse britannique Lily Allen, qu'on a évidemment connu il y a quelques années pour son tube planétaire. Après ça, la chanteuse a sorti 3 autres albums, mais rien depuis 2018. Elle a pris une grande pause aux dames de ses fans, mais elle est donc revenue l'année dernière avec un nouvel album très particulier qui s'appelle West End Girl. Je dis particulier car c'est un disque carrément autobiographique qui raconte presque en temps réel la fin de son mariage avec l'acteur américain David Harbour, connu notamment pour son rôle du shérif Hooper dans Stranger Things. Une rupture douloureuse marquée par de l'infidélité que Lily Allen a décidé de transformer en musique. Dans ses chansons, la chanteuse raconte la fin de son mariage. Les textes évoquent la colère, la désillusion, évidemment les tromperies à répétition qui vont accompagner leur séparation. Elle a écrit l'album en 10 jours après la fin de son mariage, qui aura quand même duré 5 ans. Certaines chansons sont très explicites, comme Pussy Palace par exemple. Dans le morceau, elle raconte la découverte dans leur appartement commun d'objets et de lettres laissées par d'autres femmes. Alors d'objets, on parle de sextoys, de lubrifiants, de préservatifs, d'où le titre explicite Pussy Palace. Voilà. L'album a beaucoup fait parler justement pour cette franchise. Beaucoup de critiques ont salué un disque très brut, très direct. Et la semaine dernière, la chanteuse a même poussé la mise en scène un peu plus loin sur scène pour le lancement de sa tournée à Glasgow. Elle est apparue dans ce qu'on appelle une revenge dress. Vous savez, c'est une robe portée post-rupture, censée montrer à quel point on est belle et badass. Sauf qu'elle ne s'est pas juste contentée de mettre une jolie tenue. Sa robe a une traîne de quelques mètres recouverte de tickets de caisse qui représentent les achats faits par son ex-mari pour d'autres femmes, de factures, de bars à cocktails ou encore des échanges par message qu'il a eu avec ses maîtresses. Une manière pour elle de transformer une rupture douloureuse en leçon d'empowerment féministe, et j'applaudis cette revenge dress qui est juste le parfait fuck you à son ex-mari.
Le parfait fuck you. Manon a sorti une certaine jubilation de raconter cette histoire de Lily Allen.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Saviez-vous que le point culminant de Paris était situé à Belleville et que Jules Segers avait décroché le bronze en paraski alpin? Non? Eh bien, c'est que contrairement à moi, vous avez la chance de ne pas suivre le compte Instagram de Pierre Courade, sorte de croisement entre Laurent Deutsch et Pierre Fula. Pierre, l'heure est venue de nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur la monogamie en une minute chrono. C'est plus de temps que vous n'avez jamais consacré à la monogamie.
Oh, une minute de monogamie, c'est déjà le double du record de Manon Mariani. Un sujet très intéressant aujourd'hui, évoqué grâce à notre invitée, l'essayiste Sabine Valence. Elle nous a expliquer que la monogamie, c'était avant tout une construction sociale, même si elle existe parfois dans la nature. Mais la monogamie, telle qu'elle a été inventée chez l'être humain, est avant tout un moyen d'asservissement des femmes. C'est pour être certain que son enfant est bien le sien que l'homme a défendu à la femme de coucher avec un autre. De leur côté, les hommes, eux, ne seront jamais vraiment gênés pour aller voir ailleurs. En fait, aujourd'hui, ce qui dérange notre invité, c'est que ce schéma reste figé. Être monogame devient une injonction, une obligation sociale. C'est à ce moment-là qu'il faut préciser que le contraire de monogamie pour Sabine Valence n'est pas forcément polygamie, mais plutôt polyamour ou polysexualité. Il faudrait ainsi séparer le sexe des sentiments, ou mieux, la possession du couple. En tout cas, quand on voit le nombre d'infidélités, on peut sincèrement se demander si l'être humain est fait pour la monogamie. Sabine Valence estime que même si l'on aspire à l'amour exclusif, il peut y avoir des écarts. Inutile pour autant de blâmer cet état de fait. On peut en effet ressentir de la frustration affective et sexuelle quand on est monogame, et ça, c'est naturel. Et quand je dis « on », c'est un « on » de généralité. Évidemment, je rassure mon mari.
Mais évidemment, qui nous écoute chaque après-midi. Absolument. Merci Pierre. La monogamie, la vie de couple, c'est pas facile tous les jours, on a vu. Mais heureusement, pour répondre à toutes vos questions, depuis toujours, on a la radio et notamment l'émission du Dr Jeez.
De minuit à 2h du matin, t'es dans la radio libre avec Dr Jeez. Alors appelle vite le standard et passe à l'antenne pour confier tes problèmes de cœur au docteur et son équipe. On est de retour dans Dr Jeez sur Number One et restez bien avec nous parce qu'on a Magali, 19 ans, qui nous a appelé ce soir et qui veut questionner la monogamie dans son couple, car selon elle, ce n'est qu'une norme sociale finalement et qu'on devrait pouvoir passer outre. Toi Romano, j'imagine que passer outre, ça te pose pas trop de problèmes, hein. De quoi Romano? Est-ce qu'elle aime la double peinée? Ah bah, je te cache pas que je me doutais que t'allais encore parler de ça, Romano. Bon, on lui demandera. Calme-toi, s'il te plaît. Mais avant, on a Stéphanie qui nous appelle. Stéphanie, t'as 18 ans et tu vas nous parler de double peinée. Attends, quoi? Putain, Romano, par contre, trafiquer les fiches, c'est vraiment relou. Hein, t'es chiant. Hein. Allez, remonte ton falzard, il y a des stagiaires, là. Non, Stéphanie, tu nous appelles pour un sujet sérieux. Tu nous appelles parce que ton mec plus de la bite, apparemment. Attends, quoi? Oui, rien n'y fait, ni les lingettes, ni le savon. De quoi, Cyril? Bah non, c'est pas un canular, pourquoi tu dis ça? Ah, c'est ta femme! Ah, pardon! Ah, c'était un appel perso! Ah, désolé, bon, je suis... Bon, jingle! Allez, personne ne dit, moi, aussi. Vous me le passez! Tu es un adulte, tu n'es pas à l'aise avec le fait de parler de sexualité avec des adolescents, tu adores le jazz! Bah, retourne sur FIP, mon pote, parce qu'ici, c'est Dr Jeez. De minuit à 2h du matin, sur Number One.
De retour, et on enchaîne avec l'auditeur suivant qui nous appelle parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'à la maison il doit mettre ses slips au sale alors qu'il bosse toute la journée. Alors bon, je comprends pas bien non plus, je comprends surtout pas son prénom. C'est Mathieu ou c'est Noël?
Oui, c'est Mathieu, oui. Bonjour à toute l'équipe, vous me voyez ravi de passer dans cette belle émission, nonobstant le fait que je viens pour parler d'un sujet tout à fait personnel.
Attends, mais je te reconnais, toi. Tu nous as déjà appelé la semaine dernière, c'est à cause de toi qu'on a dû mettre fin à la séquence Dr Jeez double ton salaire. Ah, il a failli nous couler la boîte, là, avec sa paye de sultan, là. Ouais, ça dégage. On envoie la pub.
Découvrez le secret le mieux gardé de nos montagnes, celui de la fraîcheur de Edaria. Un jour, au Pays Basque, un moine a mis par hasard une pastille de vitamine C dans son verre de vin, et c'est ainsi qu'il eut l'idée de la sangria effervescente. Edaria, la sangria en pastille. L'apéritif à amener partout, mais pas trop loin de chez nous, quoi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
On est de retour et tout de suite, on va prendre un appel de Cécile. T'as 17 ans, Cécile. Oui, Romano, on va lui demander. C'est bon, là, ça suffit. Y a pas que la double peinée dans la vie de merde. Puis arrête de te branler dans le studio, là. J'ai déjà dit, c'est pas possible, ça. Bon, Cécile, elle veut nous parler de quoi, Cécile? De sécheresse vaginale. Oh non. Ah non, c'est, par contre, ça me dégoûte. Désolé. Non, la bite qui pue, j'ai rien dit, mais là, c'est trop, là. Je suis pas vraiment docteur, moi, en fait. Je suis encore moins gynéco, hein, ça suffit. Hein. De toute façon, c'est l'heure de rendre l'antenne. Hein. Je crois qu'on a encore appris plein de choses sur le couple ce soir. C'est sûr à 100% que la génération entièrement éduquée uniquement par la radio libre n'aura aucun problème en grandissant. Allez, on se quitte en musique avec Papi Chulo.
Merci beaucoup Étienne Lautrette et merci pour cette très belle imitation de moi-même, très réussie. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom et sur scène au Beau Saint-Martin à Paris et en tournée bientôt à Lyon et Toulon. Absolument. Merci beaucoup Sabine Valence, rappelle votre compte Insta, un des préférés de Cyril, Fidélité mes fesses, et votre livre Aimer sans posséder, une critique féministe de la fidélité, c'est aux éditions Textuelles. Zoom Zoom Zen.